You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
D'abord, les grands titres de ce jeudi. Le Premier ministre et le chef de l'opposition en Australie ont pris part au troisième et dernier débat de la campagne électorale avant les élections fédérales du 18 mai prochain. Israël durcit le ton contre l'Iran. Le prince Harry et son épouse Meghan ont nommé leur fils Archie Harrison Mountbatten Windsor. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison et le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, ont pris part au troisième et dernier débat de la campagne électorale hier au National Press Club de Canberra. Ils ont débattu les coûts des politiques proposées, le changement climatique et les soins de santé. Le chef de l'opposition a déclaré que les coûts de la politique du Labour seront publiés demain vendredi. Le Premier ministre a évité de répondre aux questions sur l'instabilité du leadership du Parti libéral. Il déclare qu'il a le soutien de son parti.
I will lead as I always have, from the middle. As I said to my party after I became Prime Minister, I said to them, you have elected me to lead and I'm asking you to follow. That I wouldn't be running off to one side or the other side. I've always been very clear in my views and my position on things. And so I've said to my party, this is the direction I'm heading in. And I'm asking you to join me, and they have.
Le Premier ministre Scott Morrison, le chef de l'opposition Bill Shorten, a déclaré qu'il rendrait l'Australie plus équitable et égalitaire s'il devenait Premier ministre. Il a clôturé le dernier débat en déclarant qu'une Australie plus équitable serait également plus prospère.
I want to make sure that this is an economy which works in the interest of working and middle class people. I want to see a country where your postcode, your gender, your parents' wealth, the faith you follow and how many generations you've been in this country are not the predictors of your success. I want us to be a nation which is more equal, and in becoming more equal, what we'll actually deliver is a more prosperous and wealthy nation for my kids and indeed their kids after that.
Le chef de l'opposition, Bill Shorten. Une entreprise créée pour fournir des services de garde pour enfants aurait présenté des demandes d'indemnisation pour enfants qui n'existaient pas sur leur liste dans le cadre d'une fraude de plusieurs millions de dollars. Au total, 18 personnes ont été inculpées après des raids dans le sud-ouest de Sydney et la région d'Illawarra. Le commissaire Stuart Smith de la police de la Nouvelle-Galles du Sud a expliqué qu'il s'agissait d'un complot extrêmement sophistiqué.
Around $4 million was acquired in rebates. We will allege the director had a take-home pay of around $30,000 per fortnight from the fraudulent activity.
Le commissaire Stuart Smith de la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Aux États-Unis, le président de la commission judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, déclare que le pays est dans une crise institutionnelle concernant le refus de publier l'intégralité du rapport Mueller. Le comité a voté pour des poursuites contre le ministre de la Justice, William Barr, qui a refusé de communiquer à la Chambre l'intégralité du rapport Mueller. On écoute Jerry Nadler.
There can be no higher stakes than this attempt to arrogate all power to the executive branch away from the from Congress and, more important, away from the American people. We've talked for a long time about approaching a constitutional crisis. We are now in it. We are now in a constitutional crisis.
La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a réagi.
The way that we see this is that this is over, and just because the Democrats didn't like the result doesn't mean they get to redo this process. We've spent 2 years, millions of taxpayer dollars, submitted millions of pages in documents, been fully cooperative, hundreds of hours of testimony, and Bob Mueller came back and said there was no collusion.
Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu'il demanderait aux dirigeants de la planète de cesser de subventionner les combustibles fossiles et de veiller à ce qu'aucune nouvelle centrale au charbon ne soit construite après 2020. Antonio Guterres appelle les dirigeants mondiaux, un sommet à l'ONU en septembre prochain pour les exhorter à faire davantage pour lutter contre le changement climatique.
I am sure that there will be increasing conscience of world leaders that they need to do more and they need to do faster in order to be able to reverse a trend that is becoming very dangerous.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les talibans en Afghanistan ont revendiqué l'attaque par une voiture piégée contre une ONG américaine, Counterpart International, à Kaboul, dans la capitale. Les dernières nouvelles avec Sonia Ghezali pour Radio France Internationale.
Les explosions retentissent toute la journée dans le centre de Kaboul. Première déflagration vers 11h15 heure locale. Une voiture piégée devant le bureau du procureur général explose. D'autres détonations suivent. C'est l'ONG américaine Counterpart International qui se trouve à côté, qui est prise pour cible par des hommes armés portant des vestes explosives. Les unités d'élite de la police mettront près de 6 heures à mettre fin à l'attaque. Des dizaines d'employés ont été évacués sains et saufs selon le ministère de l'Intérieur. Les talibans ont rapidement revendiqué l'attentat, confirmant que l'ONG américaine était bien la cible, mettant en cause entre autres l'un de ses programmes de promotion de la mixité homme-femme. Pendant ce temps, les représentants talibans poursuivent les pourparlers de paix à Doha au Qatar, avec l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan. Ils ont refusé le cessez-le-feu proposé par le président Ashraf Ghani et multiplient leurs attaques à travers le pays, montrant qu'ils n'ont aucune intention de négocier pour l'instant avec les autorités afghanes.
Sonia Ghezali pour RFI. Israël durcit le ton contre l'Iran et déclare qu'il ne permettra pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Hier, les Iraniens ont décidé de suspendre quelques engagements de l'accord de Vienne de 2015. Explication Guillaume Deltey pour RFI.
Israël rend hommage ce mercredi aux soldats tués en défendant le pays et aux victimes du terrorisme. Une cérémonie officielle avait lieu à Jérusalem dans la matinée et c'est cette occasion que le Premier ministre a saisi pour répondre au président iranien. Une réaction courte mais ferme. Nous ne permettrons pas à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, a déclaré Benjamin Netanyahou. Une réponse attendue de la part du chef du gouvernement israélien qui, depuis 2015, a déjà lancé à de nombreuses reprises de pareilles mises en garde aux autorités de Téhéran. Benjamin Netanyahou avait fermement dénoncé cet accord lors de la phase de négociation, puis après sa signature. À ses yeux, il ne permet pas d'empêcher que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Son opposition à cet accord avait entraîné des tensions avec l'administration Obama, mais Donald Trump partage en revanche sa vision. Benjamin Netanyahou s'est félicité l'an dernier du retrait des États-Unis de l'accord de 2015. Le Premier ministre israélien appelle à des sanctions renforcées contre l'Iran et après le revirement américain, il cherche sans grand succès pour le moment, à rallier des pays européens à l'accent anti-Téhéran.
Guillaume Deltey pour RFI. En France, le président Emmanuel Macron est entré dans les débats des élections européennes avec les candidats de la liste Renaissance. Explication et reportage de Julien Chavannes pour RFI.
On l'attendait au départ pour la mi-avril, avant un premier report au 25, encore raté. Emmanuel Macron a choisi cette même date pour faire sa conférence de presse à l'issue du grand débat. Un retard à l'allumage, exploité par les adversaires. C'est le signe d'une impréparation du camp présidentiel, estime François-Xavier Bellamy, candidat des Républicains. Alors lundi dernier, lors de son meeting à Caen, Nathalie Loiseau a balayé ses critiques.
On nous réclame notre projet. Je m'en réjouis. On s'impatiente, je vous rassure, vous ne serez pas déçus. Si nous avons mis le temps pour le rédiger, c'est que nous n'avons pas écrit ça entre trois apparatchiks dans une cabine téléphonique.
Et il n'est pas trop tard pour parler du projet, au contraire. Les Français commencent à peine à s'intéresser aux européennes, estime un conseiller de la candidate. À un peu plus de deux semaines du vote, la majorité présidentielle accélère. Pour vendre le programme aujourd'hui, les colistiers se déploieront dans tout le pays, pendant que Nathalie Loiseau fera une visite symbolique sur la tombe de Simone Veil au Panthéon.
Julien Chavannes pour RFI. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé, je cite, le soutien de la France au chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, qui était en visite officielle hier à Paris. Reportage Binta Diane pour RFI.
Côté français, on prône le retour au calme. Dans un communiqué, l'Élysée estime qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit libyen. Pour Paris, il faut, je cite, « mettre un terme à l'offensive militaire lancée vers Tripoli et revenir aux discussions avec tous les acteurs libyens, y compris la société civile. Pour protéger la population prise en étau dans ce conflit, le président français suggère de délimiter une ligne de cessez-le-feu sous l'égide de la communauté internationale. » De son côté, le gouvernement d'Union nationale exprime son amertume. Fayez al-Sarraj, le premier ministre libyen, estime qu'en lançant son offensive sur Tripoli début avril, le maréchal Haftar a mis fin à tout espoir d'accord politique. Sur cette lancée, ce responsable dit toute sa réticence à s'asseoir de nouveau autour d'une table de négociation avec Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Il préconise plutôt d'identifier, je cite, « une élite intellectuelle pouvant représenter l'Est du pays ». Après Rome, Berlin et Paris, les responsables du GNA se rendent à Londres dans l'espoir de multiplier les soutiens.
Binta Diane pour RFI. Aux États-Unis, un groupe de sénateurs souhaite relever l'âge minimum pour acheter du tabac de 18 à 21 ans. Ils ont présenté un projet de loi intitulé Tobacco 21 qui s'appliquerait également aux cigarettes électroniques. Les sénateurs se sont inquiétés du fait que la vente de cigarettes électroniques pousse de plus en plus d'adolescents à fumer du tabac. La National Academy of Medicine estime que relever l'âge minimum permettrait de sauver plus de 220 000 vies de décès liés au tabagisme. Le sénateur Dick Durbin a déclaré que le vapotage chez les jeunes était une préoccupation majeure.
Go to any high school or middle school in any town, in any state, and ask them if vaping's a problem. And they'll tell you. The kids are using what looks like something you plug into a computer as their tool or mechanism or instrument for vaping.
Le sénateur américain Dick Durbin, le prince Harry et son épouse Meghan ont donné le nom de Archie Harrison Mountbatten Windsor à leur fils qui est né il y a quelques jours et les nouveaux parents sont ravis.
It's magic. It's pretty amazing. And I mean, I have the two best guys in the world, so I'm really happy.
Tell us a little bit about your son. What's he like? Is he sleeping well? Good baby?
Yes. He has the sweetest temperament. He's really calm and
He gets that from.
Yeah, and he's just been the dream, so it's been a special couple days.
Voilà, le prince Harry et son épouse Meghan. La sortie prochaine de la nouvelle édition du dictionnaire Le Petit Larousse, avec une centaine de nouveaux mots à présenter dans cette nouvelle édition. Précision de Laura Martel pour RFI.
Les nouvelles entrées dans le dictionnaire sont intéressantes en ce qu'elles reflètent les évolutions de notre société. Dans cette édition 2020, on retrouve ainsi le survivalisme, le mode de vie des personnes qui se préparent à la survenue d'une catastrophe, le locavorisme, un mouvement qui prône de ne consommer que des fruits et légumes locaux et de saison pour contribuer au développement durable, ou encore l'adolescence, le phénomène de ces adultes qui se comportent comme des adolescents. Certains mots témoignent des transformations de l'économie, comme « ubériser », rendre obsolète un modèle économique, slasher, une personne qui exerce plusieurs activités à la fois, ou encore crypto-monnaie, un moyen de paiement virtuel. Les mutations liées aux nouvelles technologies sont d'ailleurs très présentes parmi les nouvelles entrées, avec notamment la datacratie, la gouvernance par les données numériques ou le cyber-djihadisme. Sur un plan plus politique, on peut citer fachosphère, l'ensemble des partis politiques de la mouvance fasciste ou plus largement d'extrême droite, ou le suprémacisme, cette idéologie qui postule la supériorité d'un peuple ou d'une civilisation sur les autres. Si l'on constate que beaucoup de mots sont issus de l'anglais, d'autres cependant nous viennent de la francophonie, comme alphabet, utilisé au Burundi et au Maroc pour désigner une personne qui sait lire et écrire, ou divulgâcher, un mot québécois qui signifie révéler prématurément.
Voilà Laura Martel pour RFI. Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie, Perth, où il fera 23 degrés, Adélaïde 15 degrés, Melbourne 17, Hobart 16, Canberra 15, Sydney 21, Brisbane 26, Cairns 30, Darwin 31 et à Alice Springs maximal de 22 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi. Le Premier ministre australien et le chef de l'opposition fédérale ont pris part au troisième et dernier débat de la campagne électorale avant les élections fédérales du 18 mai prochain. Israël durcit le ton contre l'Iran. Le prince Harry et son épouse Meghan ont nommé leur fils Archie Harrison Mountbatten Windsor. Fin du journal et merci de rester avec nous pour la suite du programme.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.